Chapitre 3. Max dormit 10 heures d'affilée. Robert et Nicole l'avaient examiné sans lui trouver la moindre blessure. Robert narra leur aventure. Tous demandèrent des précisions sur ce qu'ils avaient vu. Ali et Éponine semblaient-elles agir sous la menace? Avaient-elles perdu du poids? Paraissaient-elles reposées? Le fait qu'elles soient les vedettes de ce film prouve que les octopodes ou leurs supérieurs nous observent et comprennent nos propos, expliqua Richard. Par ailleurs, soit leurs techniques cinématographiques ont des siècles de retard sur les nôtres, soit elles sont si avancées qu'elles s'apparentent à de la magie. S'il est exact qu'il n'y avait pas de projecteur dans la salle ni derrière la paroi.
Ce qui m'étonne, c'est l'absence de bande sonore,
intervint Patrick.
Nous donner de leurs nouvelles de vive voix aurait tout de même été plus simple. Ne faut-il pas en conclure que les octos sont sourds, et non que leur technologie est moins évoluée que la nôtre?
L'hypothèse est intéressante, approuva Richard. Il est vrai qu'ils n'utilisent pas de son pour communiquer entre eux.
Les créatures marines sont fréquemment atteintes de surdité, fit remarquer Nicole.
Je me suis occupé de malentendants, en Thaïlande,
dit Nai.
Leur handicap est mineur, au sein d'une société bien organisée. Dès l'instant où il n'est pas nécessaire de chasser ou de fuir des prédateurs, s'exprimer par des gestes ou par un code de couleur ne pose aucun problème.
Une minute, fit Robert. S'ils étaient sourds, comment aurait-il appris que nous comptions partir à la recherche d'Ali et d'Éponine?
Après un instant de réflexion, Richard suggéra « Elles ont pu leur traduire nos propos. »
« Il faudrait pour cela que cette salle soit truffée de micros, »
intervint Patrick.
« Et le sens de l'ouïe me semble indispensable pour inventer des dispositifs qui captent des sons. En outre, je doute que ma sœur et Éponine maîtrisent suffisamment ce code de couleur pour servir d'interprète. Non, les octos ont dû deviner les intentions de Max et de Robert en voyant les portraits des deux femmes sur l'écran de l'ordinateur.
C'est une excellente déduction, approuva Richard.
Avez-vous l'intention d'en discuter toute la nuit?
Voulut savoir Max, qui venait les rejoindre. Tous se levèrent d'un bond.
Ça va?
Lui demanda Nicole.
Je me sens complètement...
Que s'est-il passé?
L'interrompit Robert.
J'ai entendu le coup de feu et à mon arrivée tu étais inconscient et deux octopodes t'emportaient.
Tout ce que je sais, c'est que j'ai senti une brûlure dans le cou avant de tomber dans les pommes. J'ai dû recevoir l'équivalent d'un dard de tranquillisant.
Il se massa la nuque et Nicole alla l'examiner.
Je ne vois rien,
dit-elle. Max regarda Robert.
Je présume que tu n'as pas récupéré le fusil.
Désolé. N'y ai pensé qu'à bord du métro.
Max se tourna vers ses amis.
Je vous informe que j'ai enterré la hache de guerre. Nous ne pouvons pas lutter contre ces créatures.
Nicole le prit par l'épaule.
On nous l'a changé, ma parole.
Je suis peut-être entêté, mais pas stupide. Je ne crois pas que nous sommes censés emménager dans l'igloo,
déclara Max, après qu'ils eurent déchargé le ravitaillement du métro du matin.
Pourquoi ?
Demanda Richard.
Qu'ils aient construit cet escalier démontre que ce refuge nous est destiné.
C'est ridicule. La place y est comptée. Non, je pense plutôt à un simple relais.
Nicole se représenta toute leur famille, entassée dans le petit abri décrit par Patrick.
Je vois ce que vous voulez dire. Que suggérez-vous ?
D'aller visiter les lieux. Un indice a pu échapper à Patrick. Les octos ne sont pas du genre à laisser planer des incertitudes.
Richard, Max et Patrick se chargèrent de cette mission. Ils s'arrêtèrent au sommet de l'escalier en hélice.
J'ai l'impression de rêver,
déclara Max en admirant le dôme arc-en-ciel.
Tout est si différent de la Terre ici.
Pense à moi, dit Patrick. Je suis né dans un vaisseau extraterrestre et j'ai passé la moitié de ma vie à dormir. Je n'ai jamais vu ce que tu considères comme normal.
Si j'étais toi, mon garçon, il y a longtemps que j'aurais disjoncté.
fit Max en le prenant par l'épaule. Ils repartirent et gravirent la volée de marche suivante jusqu'à la hutte, qui correspondait en tout point aux descriptions de Patrick. Ils enfilèrent leurs vestes puis sortirent. Richard vit aussitôt le second igloo.
« Il n'était pas là l'autre fois »,
affirma Patrick. Cet abri de dimension plus modeste et situé à 30 mètres de la falaise était luminescent dans le crépuscule perpétuel de Rama. Quand les hommes approchèrent, une porte s'ouvrit sur deux petits humanoïdes lumineux d'une vingtaine de centimètres.
« Que diable ?»
commença Max.
« Regardez, c'est maman et oncle Richard !»
s'exclama Patrick. Les deux personnages s'éloignèrent vers le sud. Les humains coururent pour les rattraper. Les figurines avaient des sacs à dos. Leurs cheveux, leur visage et même la barbe de Richard étaient reproduits à la perfection. Max se pencha pour prendre la Nicole miniature et reçut une décharge électrique dès qu'il la toucha. Elle se tourna vers lui et secoua la tête. Après les avoir suivis sur une centaine de mètres, les hommes s'arrêtèrent. « Nous savons désormais ce qu'on veut de nous », conclut Richard.
« Ouais, »
approuva Max.
« Vous êtes attendu quelque part. »
Le lendemain, Richard et Nicole préparèrent leurs bagages et prirent congé de leur grande famille. Gravir l'escalier fatigua Nicole.
« J'aurais dû me ménager »,
dit-elle lorsqu'ils s'arrêtèrent sur le palier pour saluer leurs compagnons. « Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'autrefois. Te sens-tu prête à vivre de nouvelles aventures ?» Elle hocha la tête et ils repartirent en se tenant par la main. Au pied de la seconde volée de marche, elle se tourna vers lui pour déclarer
« Cette solitude est agréable. Je trouve mes responsabilités écrasantes.
Nul ne t'a obligé à les assumer !»
lui rappela-t-il en riant. Il se baissa pour l'embrasser sur la joue. Elle lui présenta ses lèvres.
Est-ce une invitation à passer la nuit dans l'igloo ?
Vous lisez dans mes pensées, monsieur Wakefield.
300 mètres plus au sud, la luminescence moindre de l'igloo empêchait de voir le sol caillouteux et il devait prendre garde à ne pas trébucher.
« La route risque d'être longue »,
remarqua-t-elle lorsqu'ils s'arrêtèrent pour boire.
« Tu n'as pas froid ?»«
Pas quand je marche. »
Une heure plus tard, une lueur apparut dans le ciel, loin au sud. Elle se rapprocha.
« Qu'est-ce que ça peut être ?»
demanda Nicole.
« La fée Clochette ?»«
T'es un vrai gosse !»
fit-elle en riant. « Tu m'as fait rajeunir la nuit dernière. » Elle rit encore et ils attendirent. Le point lumineux grandit puis s'immobilisa à une vingtaine de mètres d'altitude. Ils éteignirent leurs torches. Richard plaça une main en visière au-dessus de ses yeux mais ne put rien discerner. La clarté était trop vive. Elle semble nous indiquer le chemin. 2 heures plus tard, ils suivaient un sentier qui s'éloignait vers le sud-ouest, au milieu de champs cultivés. Pendant la pause du déjeuner, ils découvrirent qu'on faisait pousser en ce lieu un des légumes qu'ils consommaient sous le dôme, une sorte de courge jaune au goût de haricots verts. Il y avait également des rangées de plantes rouges vives qu'ils voyaient pour la première fois. Richard en déterra une pour la lâcher sitôt qu'il vit son oignon verdâtre gigoter. Dès qu'elle fut sur le sol, la chose rampa jusqu'au trou qu'elle avait occupé et s'y enfouit.
« J'y réfléchirai à deux fois avant de recommencer »,
affirma Richard en riant.
« Regarde là-bas, n'est-ce pas un des ouvriers qui ont construit l'escalier ?»
demanda Nicole un instant plus tard. Ils se rapprochèrent. C'était effectivement une fourmi et elle récoltait les légumes avec beaucoup d'efficacité. Ses bras, ou trompes, en cueillaient 3 rangs de chaque côté
et les mettaient en tas tous les 2 mètres. Quand la créature atteignit le chemin, elle rétracta ses membres et s'éloigna de 6 rangées avant de se remettre au travail. Les humains repartirent dans la partie du champ où des sortes de gros rongeurs prenaient les courges récoltées et les emportaient vers l'ouest. Richard et Nicole se laissaient toujours guider par la lumière. Les champs s'étendaient à perte de vue et ils étaient trop las pour s'arrêter et étudier les nouvelles variétés de légumes. Ils atteignirent finalement un secteur dénudé. La lueur dessina 3 cercles au-dessus d'eux, puis s'immobilisa à la verticale du centre de ce terrain. « Je présume que c'est ici que nous passerons la nuit, » dit Richard.
« Je sens que je vais dormir comme une souche. »
Ils dînèrent, puis s'allongèrent. La lumière perdit de son intensité et de l'altitude. « Regarde !» murmura Richard. La créature se posa. Elle luisait désormais trop faiblement pour qu'il puisse discerner plus que ses contours. Mais ils constatèrent qu'elle était filiforme et avait des ailes 2 fois plus larges que son corps. « Une luciole géante !» s'exclama Richard.